carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jean-Noël Robert est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres où il a été élu en 2006. Orientaliste, spécialiste du bouddhisme japonais, il a été nommé à la chaire de philologie de la civilisation japonaise du Collège de France en 2011. Sa leçon inaugurale sera prononcée le 2 février 2012. Jean-Noël Robert est avec nous aujourd'hui pour nous parler des arts du Japon. Le sujet peut paraître un peu éloigné de sa spécialité, mais au contraire, sa connaissance du bouddhisme, de la langue et de la civilisation japonaise vont nous servir de guide pour évoquer trois thèmes en rapport avec les arts du Japon, les ofuda, les estampes et les armures samouraïs. Trois exemples pour découvrir ensemble une vision de l'art à la fois différente et proche de la culture occidentale. Bonjour Jean-Noël Robert et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour madame et merci de m'avoir invité.
Tout d'abord Jean-Noël Robert, comment le mot art se traduit en japonais et quel sens a-t-il pour les japonais?
Oui, c'est vraiment une très vaste et une très bonne question. Il est vrai que, comme vous le savez, il y a eu un véritable changement de la vision du monde au Japon avec la modernisation du 19e siècle. De Meiji, donc. Et cette modernisation a engagé toute une recomposition, une restructuration de la langue japonaise, où l'on a essayé d'introduire, sous le déguisement, donc, des caractères chinois, sous un aspect extrêmement traditionnel, des conceptions entièrement nouvelles, et en particulier, le concept occidental d'art, qui lui-même, d'ailleurs, est problématique dans l'histoire de l'Occident. Mais on a essayé véritablement de trouver un mot qui puisse correspondre à ce que les Occidentaux appelaient art, et évidemment, l'introduction de ce mot nouveau allait modifier le regard même des Japonais sur ce qu'ils n'appelaient pas encore l'art. C'était la même chose en littérature, en histoire, en philosophie, toutes ces conceptions nouvelles
ont été introduites au moment de l'ère Meiji.
Voilà, de l'ère Meiji. Donc on a alors il a fallu trouver un mot pour exprimer art. On n'a pas réussi à en trouver un unique. Disons que le mot qui est le plus souvent utilisé pour signifier art, geijutsu, est un composé de deux caractères chinois. Le second, jutsu, qu'on retrouve dans jiu-jitsu, par exemple, vous savez, l'ancien nom du judo, n'est-ce pas? Qui veut dire, c'est donc une technique, comme ars, n'est-ce pas? Le latin qui traduisait le grec techné, enfin, c'est tout à fait pertinent. Donc, jutsu, c'est la maîtrise acquise dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine d'un art martial ou d'un artisanat. Ça veut dire plutôt l'artisanat. Et gei est un autre mot que l'on retrouve, par exemple, pour dire encore un cliché de la civilisation japonaise, les geisha, n'est-ce pas? Les geisha veulent dire littéralement les artistes. Sha se lit en japonais mono, c'est-à-dire les gens qui maîtrisent une tenue en quelque sorte, un comportement raffiné. Donc geijutsu voudrait dire maîtrise, artisanale de la conduite contrôlée en quelque sorte. Et on en a fait la traduction du mot occidental art, art en anglais. Il y a un autre mot beaucoup plus restreint dans le champ sémantique qui est bijutsu. Et bijutsu, alors là c'est toujours le même mot jutsu, n'est-ce pas, qui indique la technique, l'artisanat ou la technique traditionnelle au sens de passer de génération en génération. Et bi, c'est la beauté. Donc c'est l'artisanat du beau. Et là ça désigne beaucoup plus formellement les beaux-arts. À l'origine ça correspondait à l'appellation française de beaux-arts.
Et ce mot-là est apparu quand?
Toujours à Meiji, n'est-ce pas?
Voilà.
Alors, on hésite souvent entre geijutsu et bijutsu, parce qu'évidemment, le vocabulaire japonais est parfois plus précis, parfois plus vague que le vocabulaire occidental. Et disons que geijutsu est parfois senti comme trop vague pour désigner des choses comme les beaux-arts.
Alors, vous avez évoqué le comportement raffiné. On parle souvent du raffinement des arts japonais de façon générale. On parle du raffinement de la civilisation japonaise. Alors, serait-elle plus raffinée? La question peut paraître complètement absurde comme ça. Sur quoi repose cet a priori positif ou cette représentation? Au fond, comment une idée pareille s'est installée et que relève-t-elle de notre compréhension ici, en Europe?
Je viens de vous parler de l'influence occidentale sur le regard japonais qui a obligé les Japonais à regarder rétrospectivement leur tradition comme un art à l'occidental. D'un autre côté, il y a eu un regard japonais qui a influencé, me semble-t-il, les Occidentaux, et en particulier dans cette question du raffinement, justement. Là aussi, il y a plusieurs termes japonais qui ont beaucoup influencé les critiques occidentaux et parfois qui les ont un peu trop entraînés sur des voies qui étaient somme toute des voix recomposées elles aussi, mais vous savez, donc cette influence occidentale sur le Japon a entraîné une réaction japonaise pour montrer que eux aussi avaient des conceptions originales qui pouvaient rejaillir sur l'interprétation occidentale. Il y a plusieurs termes japonais que l'on pourrait traduire par raffinement. Il y en a un qui semble plus proche de cette représentation occidentale que vous évoquez, c'est le mot miyabi. Miyabi, n'est-ce pas, qui veut dire le... Alors vraiment, c'est presque l'art raffiné de cour des connaisseurs. Et cela se s'employait à la fois pour les armures, les sabres, les estampes, etc. C'est l'art, on pourrait presque dire l'art de la haute, n'est-ce pas ? C'est ce qui n'est pas vulgaire. Et je pense que cette idée de raffinement de la civilisation japonaise que l'on a souvent en Europe vient de cette surestimation venant par réaction des Japonais pour montrer que voilà, il y a un art comparable à l'art occidental. Et puis il y a cette dimension, presque comme dimension esthétique, mais c'est presque une dimension de jugement, n'est-ce pas, qui est l'art non vulgaire, la non-vulgarité de la représentation artisanale.
Est-ce qu'il y a dans la langue japonaise un mot qui définit ce qu'ici on appelle la création artistique ? Même
oui,
pour les artistes en français, ça pose un problème.
Oui,
est-ce que c'est un concept ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça n'existe pas ?
Alors, tous les termes japonais, voire chinois, sur création, et d'ailleurs c'est très amusant de voir cela, à chaque fois nous retombons sur des problèmes de langue, ce qui m'enchante, mais j'espère que ça ne vous ennuie pas trop, mais il me semble que c'est quand même assez fondamental. Là aussi, il y a des termes japonais pour création, non pas paradoxalement à la lumière de ce que nous venons de dire, mais de façon très intéressante, ce sont aussi des termes occidentaux ou revalorisés à l'occidental. Et en particulier, on peut dire la création artistique, et cette création artistique, le mot utilisé pour création artistique, sozo en japonais, c'est exactement le même mot qui apparaît dans les traductions japonaises et chinoises de la Bible, n'est-ce pas ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est exactement le
donc
même mot.
Donc c'est la
mot
même...
Qui... Alors voilà, on prend ça, on prend cette revalorisation du fait de créer quelque chose de rien, est un concept, disons, occidentalisé. Maintenant, vous avez des mots japonais qui correspondent à ce qui, plutôt que création, c'est la bonne transmission, la bonne tradition d'un art, d'une technique, d'un artisanat. Tout à l'heure, nous parlions de ce mot jutsu, n'est-ce pas ? La lecture japonaise de ce mot, c'est waza. Waza veut dire, encore une fois, la technique maîtrisée. Et je ne sais pas si vous avez fait des arts martiaux, mais par exemple, dans les compétitions olympiques de judo, lorsque l'on gagne un demi-point avec un waza adi, n'est-ce pas ? C'est une prise qui aurait permis un bon contrôle de l'adversaire sans lui donner quand même la victoire totale en ippon. Donc, c'est la bonne technique. Et là, vous avez la transmission. Je vais résumer ça d'un mot. Confucius a une phrase très célèbre qui résume toute sa doctrine et qui a influencé énormément, même en dehors du confucianisme, puisque vous savez bien que Confucius était le livre de lecture de la maternité quasiment au Japon aussi, c'était « je transmets, mais je ne crée pas ». C'est-à-dire, le mot que j'emploie pour créer, c'est ici « faire », n'est-ce pas, « fabriquer ». ».« Je transmets, mais je ne fabrique pas ». Alors, vous voyez, dans la vieille tradition japonaise, c'était transmettre correctement les enseignements d'un maître. Et nous pourrons revenir sur cette notion de maître qui est très importante.
Alors, est-ce que cette idée de concours aussi entre les arts, de jeu à la cour des empereurs, comme vous parliez du judo, de cette idée de compétition,
oui,
de
effet.
Cette maîtrise, où justement, on rivalise du meilleur geste ou de la meilleure maîtrise. Est-ce que ça joue aussi un rôle dans les arts japonais ?
Bien sûr. Là, en effet, parce que là, c'est quelque chose de très concret, puisqu'on a donc une transmission traditionnelle, et puis il y a des niveaux dans la qualité de cette transmission. Et il y a aussi une notion, alors là, d'excellence individuelle. Je vous ai peut-être déjà donné cet exemple qui a toujours beaucoup frappé dans un roman du XVIIe siècle de Ihara Saikaku, n'est-ce pas ? C'est un romancier presque de mœurs, n'est-ce pas ? C'est celui qui a écrit l'histoire d'un amoureux de la volupté, comme on le traduit en français, enfin les cinq femmes amoureuses, etc. Enfin, c'est quelqu'un d'absolument passionnant parce qu'il a touché à la fois aux turpitudes du quartier des plaisirs, mais aussi aux conditions économiques de la ville d'Osaka, par exemple. La transmission des arts martiaux chez les samouraïs, les amours un peu pédérastiques des samouraïs, il a vraiment touché à tout. Il y a souvent des femmes déchues, des courtisanes déchues, une dame qui s'en va loin de Kyoto, qui tombe sur un petit ermitage et l'ermite lui sert le thé. Et elle voit que le thé que lui est servi pour mettre la poudre de thé dans la théière, n'est-ce pas ? Elle reconnaît tout de suite la cuillère. C'est ce qu'on appelle une cuillère. C'est une toute petite lamelle de bambou qui est sculptée, c'est un bien grand mot, qui est modelée par un artisan. Et elle reconnaît au premier coup d'œil que cette cuillère vient d'un célèbre artisan de Kyoto. Vous voyez, là, il y a vraiment l'idée d'excellence. Donc, ce sont des choses parfaitement insignifiantes, d'une très grande sobriété artistique. Mais il y a la patte de l'artiste, là. Ce sont des choses éminemment quotidiennes, n'est-ce pas ?
Alors, c'est à la fois des codes,
voilà.
Et en même temps, ça fait partie
il n'y a pas une
signature.
Il n'y a pas une signature, n'est-ce pas?
Il n'y a pas de signature.
Elle voit tout de suite à la courbure de la cuillère que ça vient de tel artisan de Kyoto, et elle s'aperçoit donc que l'ermite, c'est pas n'importe qui. Et en effet, l'ermite va expliquer sa vie. C'était quelqu'un d'une grande famille de Kyoto qui a eu des misères avec les courtisanes d'ailleurs et qui s'est exilé. Donc vous voyez qu'il y a ce jugement esthétique qui est donné d'excellence. Voilà, à l'intérieur d'une tradition bien délimitée.
Et qui fait partie d'une codification sociale.
Alors, une codification sociale et puis aussi une codification esthétique sur laquelle nous pourrons revenir, parce que cette idée de code est très importante dans les arts japonais.
Alors, le Japon, c'est un archipel. Comment se sont traduites les influences extérieures chinoises, coréennes ou européennes justement dans les arts du Japon? Vu d'Europe, le Japon paraît à l'extrême un archipel éloigné qui aurait reçu comme ça toutes ces influences continentales au sens large.
En effet, c'est bien ce qui s'est passé. Bien évidemment, les premiers Japonais ne sont pas nés spontanément sur le sol japonais, ils sont venus de quelque part. Autrefois, on a pensé à la Polynésie, mais le plus évident, c'est quand même le plus proche, et c'est donc la péninsule coréenne, et par-delà la péninsule coréenne, tout le continent eurasiatique. Et il y a donc une transmission continue. On a des arts japonais de l'époque Jōmon.
De la préhistoire.
Qui sont vraiment magnifiques et que l'on peut certainement relier.
Ce sont des statues, je crois.
Voilà, oui,
enfin,
voilà,
on en reparlera.
Les statues
de Jōmon
qui ont fait l'objet d'une magnifique exposition il y a quelques années à la Maison de la Culture japonaise. Et c'était sans doute pas la population actuelle. Elles sont sans doute mélangées à une population qui est arrivée plus récemment. Quand je dis plus récemment, ne me demandez surtout pas quand. Maintenant, les gens hésitent. Enfin, on disait jusqu'à maintenant entre 3e avant Jésus-Christ, 3e après Jésus-Christ. Maintenant.
3e millénaire?
Non, au 3e siècle seulement.
Siècle, pardon, je sais pas.
Donc 300 avant, 300 après. Il y a maintenant des gens qui voudraient mettre la fourchette un peu plus ancienne, c'est-à-dire 5e voire 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des recherches récentes.
Donc, mais alors, ces influences dans les arts?
Alors voilà, ces influences dans les arts, évidemment, c'est la seconde vague qui nous intéresse ici. Et ce qui m'intéresse beaucoup, là je m'avance peut-être un peu, mais l'une des premières mentions explicites de ce que nous appellerions art, transmission d'art au Japon, c'est cette fameuse lettre d'un des royaumes de la péninsule coréenne du 6e siècle qui s'appelait Pekche, n'est-ce pas, qu'on appelait Kudara en japonais. C'est un royaume qui a disparu, donc c'est pas étonnant qu'on ne le connaisse peu maintenant, mais il a joué un très grand rôle dans la transmission de la civilisation. Et on a une lettre du roi de Pekche à l'empereur japonais de l'époque qui dit, en substance, je vous envoie des textes chinois et des œuvres d'art chinois, c'est-à-dire des images de Bouddha.
Et donc
c'est un peu symbolique, mais on voit que la première mention d'œuvres d'art transportées, importées au Japon, ce sont des ce qu'on appellerait maintenant, ce qu'on appelait pas à l'époque des œuvres d'art, mais c'était simplement des images de Bouddha, n'est-ce pas? Image voulant dire à la fois statue, d'ailleurs comme en latin, imago veut dire soit statue, soit image peinte. On ne sait pas. Et je pense que c'est la première mention historique d'un. Alors là aussi. Il y a un débat, disons que c'est autour de 550. Je ne dirais pas si c'est 532 ou 553, comme on l'a dit, mais enfin, c'est autour de 550.
Donc, c'est plus par ce biais de la religion entre la civilisation chinoise ou coréenne. Ça s'est fait plutôt par ce biais-là.
Alors, c'est une idée qui m'est chère, mais à vrai dire, cette lettre du roi de Pekche est très intéressante, parce qu'il ne dit pas « c'est la religion ». Ce que je vous envoie là, c'est la vérité, la religion véritable en laquelle il faut croire, sinon vous allez tomber dans la perdition. Non, non, il dit « je vous envoie ça parce que c'est à la mode. C'est à la mode en Chine. Tout le monde ne parle plus que de ça. Et alors cette transmission religieuse, ce n'est pas du tout pour remettre en cause la sincérité des sentiments religieux, mais on voit aussi que ça fait partie d'une plus grande notion de la culture.
Ça explique une diffusion originale, là.
Alors oui, c'est vrai. Et ce qui est très drôle, c'est que entre ces années 550 et 750, pendant deux siècles, bien le bouddhisme qui s'est transmis au Japon, sinon se fonde sur de vrais critères bouddhiques, religieux, cléricaux, n'est-ce pas, où l'on tient compte des obligations nécessaires à l'ordination correcte des moines, eh bien, il n'y avait pas de clergé japonais, parce que c'était tout à la bonne franquette. Et c'est au milieu du 8e siècle seulement que des religieux japonais sont aperçus quand même qu'il y avait un certain manque de rigueur dans leurs ordinations, qu'ils ont été chercher un maître de discipline chinois, Ganjin, n'est-ce pas, prononcé en japonais, et qu'ils l'ont ramené au Japon. Donc, c'est vrai que l'art, comme nous l'entendons maintenant, était intimement lié à la religion et au savoir en général quand ça a pénétré au Japon.
Alors, vous êtes un spécialiste, Jean-Noël Robert, du bouddhisme. Vous êtes un spécialiste du bouddhisme. La notion d'art sacré a-t-elle un sens dans la civilisation japonaise?
Bien sûr, on ne pourrait pas le dire en termes japonais traditionnels. On peut bien sûr dire art sacré maintenant, mais ça reposerait sur des notions occidentales. Simplement, il est vrai que les grands artistes japonais d'autrefois, sans entrer dans la peinture, mais la sculpture, par exemple, c'était avant tout la sculpture bouddhique, n'est-ce pas? Les grands maîtres, on les appelait parfois les maîtres de bouddhisme, n'est-ce pas? Les maîtres de Bouddha, Bushi, c'était ceux qui travaillaient sur l'art bouddhique. Le grand art, c'était l'art sacré, l'art religieux. De même qu'une grande partie de la tradition du portrait japonais a commencé par les portraits du zen, voire des grands portraits de religieux chinois, avec aussi les portraits impériaux et les portraits de poètes. On voit encore une fois, plus que les, les généraux et tout cela, à l'origine, c'était les 36 poètes, les 36 grands poètes de l'époque de Heian, etc., ont fait l'objet de représentations artistiques. Donc vous aviez les religieux, tout cela dans des registres légèrement différents, mais qui étaient quand même liés, semble-t-il, au départ, n'est-ce pas? Donc, ça nous amènera d'ailleurs peut-être à parler de cette double dimension, en quelque sorte, de la culture artistique japonaise, qui ont tendance à coexister et même à se superposer.
Alors, les religions du Japon, comme le bouddhisme, le taoïsme, le shintoïsme
surtout,
entretiennent-elles avec l'art un rapport particulier?
Eh bien oui, alors le taoïsme a eu très peu d'influence au Japon. Il a eu une influence intellectuelle. Il a peut-être eu une influence cachée que certains veulent trouver dans nombre de représentations populaires ou même dans des représentations shinto. Mais là, on ne peut pas entrer dans ces détails. Alors, il y a une chose évidente, c'est que le shinto et le bouddhisme sont... Alors, on présente souvent le shinto comme une religion autochtone, japonaise, indigène en quelque sorte, que serait venu recouvrir le bouddhisme et le confucianisme. En réalité, il a évolué. Il y a bien sûr à l'origine des traditions, par exemple, les traditions mythologiques japonaises. On a beaucoup de mal à en trouver d'origine chinoise, n'est-ce pas? Donc, on peut penser qu'il y a eu un des peuples continentaux qui a apporté avec lui des traditions originales qui sont devenues à l'origine des grands écrits shinto. Mais les représentations intellectuelles et artistiques du shinto sont en général très influencées par le bouddhisme. Et lorsqu'il n'est à première vue pas influencé par le bouddhisme, il est en quelque sorte influencé à contrario. Par exemple, on parle souvent de l'interdiction des images dans le shintoïsme. C'est vrai que vous n'avez pas de représentation de divinité shinto sculptée. Vous en avez après, mais disons dans les grands sanctuaires shinto, vous n'avez pas de représentation sculptée. Or, justement, si l'on tenait à cette origine autochtone japonaise, nous avons des représentations geomonde qui pourraient être aussi des représentations de divinité. Mais cette interdiction de représentation a été, semble-t-il, faite a posteriori pour démarquer le shinto du bouddhisme, n'est-ce pas?
D'accord.
Le bouddhisme est en religion des images, on a certains sanctuaires shinto, voilà, et on a même des textes littéraires qui montrent que, d'ailleurs, cette absence de représentation est une sorte de pacte fait entre les divinités shinto et les divinités bouddhiques, n'est-ce pas? Donc c'est une interaction continuelle. Mais évidemment, dans la tradition, vous avez une tradition artistique shinto qui est très intéressante et qui est très marquée justement parce que j'appellerais le syncrétisme shinto-bouddhique, où vous avez les divinités shinto qui sont souvent représentés avec des attributs bouddhistes marqués, n'est-ce pas?
Donc le bouddhisme, c'est le courant majeur qui a influencé les arts du Japon.
Eh bien oui, lorsque l'on voit dans la longue durée cette influence du bouddhisme, des représentations non seulement esthétiques mais aussi intellectuelles du bouddhisme a été très importante au Japon et même bien plus qu'en Chine et même elle a porté des traditions chinoises qui, à l'origine, n'étaient pas forcément bouddhiques. On les a réinterprétées dans l'orbite du bouddhisme. Et ça a donné ce côté un peu original de la civilisation japonaise.
Vous auriez un exemple pour nos auditeurs s'ils ont envie d'aller chercher une image ou une sculpture?
Écoutez, il y a un exemple très concret. Nous avons une jeune collègue qui est Claire Brisset, qui travaille maintenant sur l'histoire de l'art japonais et où elle montre que les Japonais ont été passionnés par ce qu'on appelle l'encodage, l'encryptage de thèmes parfois poétiques ou bouddhiques, etc., dans des illustrations japonaises. L'exemple le plus typique, c'est que vous avez sous des représentations d'herbes, de végétation et tout cela. Vous savez que l'écriture japonaise traditionnelle est extrêmement déliée. Eh bien, vous avez, entre les brins d'herbe, vous avez des lettres japonaises qui donnent des poèmes japonais souvent chantant la nature et qui encryptent en quelque sorte la langue dans le paysage. Et évidemment, nous avons ces genres de choses en Chine. Mais le sens bouddhique, qui est très évident au Japon au départ de ce thème, eh bien, n'était pas en Chine. Les Japonais ont bouddhisé une technique artistique chinoise assez répandue, mais en la bouddhisant, ils lui ont donné une profondeur qu'on ne retrouve pas en Chine et qui a marqué toute la civilisation japonaise.
Alors, Prenons l'exemple des images religieuses que sont les Ofuda. Mais d'abord, éclairez-nous. Et qu'est-ce qu'un Ofuda, Jean-Noël Robert ?
C'est un terme assez vaste qui veut dire d'ailleurs à l'origine une vignette en quelque sorte. Une vignette. Une vignette avec un préfixe honorifique qui montre que ce n'est pas n'importe quelle vignette. Des vignettes que l'on trouve liées au temple ou à des sanctuaires. Ça peut être aussi bien shinto que bouddhiste à l'origine. Elles sont de formes assez différentes. Mais les Ofuda que nous connaissons maintenant mieux en France grâce à la collection de Bernard Franck et à l'exposition récentes qui ont été faites au musée Guimet, ce sont ces espèces d'images gravées, en général sur bois ou plus tard sur métal, de divinités bouddhiques ou parfois shintoïstes, n'est-ce pas, mais bouddhisées, que l'on distribuait, que l'on vendait dans les temples aux pèlerins. Et ces images étaient rapportées ensuite par les pèlerins de chez eux et on les mettait comme sorte de talisman, n'est-ce pas, de porte-bonheur.
On pouvait les porter sur soi aussi ?
Alors, certaines sont pliées. En effet, vous avez des Ofuda qui sont pliées et mises dans des petites enveloppes et que l'on pouvait porter sur soi. Alors, évidemment, celles-ci sont beaucoup plus abîmées. Et puis, en général, c'est en papier. Ça ne dure pas longtemps, si bien que la plupart des Ofuda que nous possédons sont des images récentes.
Ces images, donc, c'était des images accompagnées de textes aussi ?
Alors, les textes...
Ou c'est que des images dessinées ?
Oui, comme je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de Ofuda. Certaines sont des vignettes entièrement écrites.
Vous avez surtout il y a toujours du texte.
En général, oui. Vous avez au moins le nom. Alors, dans le Shinto, justement, c'est souvent sans images. C'est-à-dire que vous avez simplement le nom du sanctuaire Shinto ou le nom de la divinité présidente à ce sanctuaire. Dans le bouddhisme, vous avez en général, le texte est toujours très restreint. Vous avez le nom du temple, le nom de la divinité, éventuellement l'emplacement géographique et parfois une formule, sorte de formule magique, disons un mantra, l'équivalent d'un mantra, prôné par cette divinité. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le lieu de rencontre, justement, des traditions savantes et des traditions populaires. Puisque chaque temple japonais est ancré dans une région, et chaque région japonaise étant plus ou moins sous l'emprise d'une divinité japonaise, vous aviez en quelque sorte, non pas un conflit d'intérêts, mais un confluent d'intérêts, là, entre la divinité bouddhique vénéré dans ce temple, et puis la divinité Shinto qui présidait au lieu, en quelque sorte. Et souvent, les deux coïncidaient et étaient mises, disons, sous la même représentation, avec des attributs légèrement différents qui permettaient de particulariser tel ou tel endroit. Et ça, c'est très caractéristique des Ofuda japonaises que nous aimons bien, nous, n'est-ce pas, qui montrent justement cette rencontre de la tradition indienne et chinoise à l'origine, confluée avec la tradition locale japonaise.
Jean-Noël Robert, vous avez évoqué le nom de Bernard Franck, qui était un grand orientaliste, qui est mort en 1996, qui était lui aussi un spécialiste du bouddhisme
oui, oui.
Et de cette iconographie bouddhique dont vous nous parlez. Et il s'est particulièrement intéressé aux Ofuda et il a constitué une très belle et très grande collection que vous avez juste mentionné là dans l'exposition. Quelle est la particularité de cette collection et de ces images? Parce que
oui,
c'est
juste,
comme ça que j'imagine qu'on les a découvertes en France.
Je vous remercie d'aborder cette question. Oui, en effet, Bernard Franck est l'un des très rares occidentaux. Il y en a eu plusieurs autres. En particulier, il y a eu le roi Gouran, par exemple, qui était un préhistorien, qu'on a connu comme préhistorien, mais qui à l'origine était passionné par le Japon. Il aurait pu d'ailleurs faire une carrière de japonisant, semble-t-il, et puis il a été interrompu par la guerre. Et lui avait commencé aussi à collectionner les Ofuda. Alors, le roi Gouran ramassait des Ofuda. Il y a eu aussi un Britannique dont le nom m'échappe maintenant, et un Américain qui en ont collectionné. Mais Bernard Franck, lui, a fait une collection systématique et avec un but, alors scientifique c'est peut-être un bien grand mot dans nos études, mais un but en tout cas cohérent, qui était de recueillir le plus de représentations bouddhiques des Ofuda trouvables dans les temples bouddhiques et pas dans les sanctuaires Shinto,
d'accord,
n'est-ce pas ? Donc il s'est vraiment orienté sur la question bouddhique et de préférence il les a toutes ramassées, mais il était passionné par celles qui montraient justement ce syncrétisme en quelque sorte, cet ancrage local des grandes divinités indo-bouddhiques. Et au cours de pratiquement 40 ans, n'est-ce pas, il a parcouru le Japon dans tous les sens, dans les temples les plus éloignés, pour recueillir ces images.
Alors on en a en gros 1000.
Alors il a laissé une grande collection d'un peu plus d'un millier, qui a fait l'objet d'un classement et qui continue toujours à faire l'objet d'un petit groupe d'études. Et le point culminant de ce travail a été l'exposition faite l'année dernière au Musée Guimet.
Grâce bien sûr
à l'instigation de Madame Franck, qui tenait beaucoup à ce que le travail de son mari soit présenté à un plus grand nombre.
Alors, dans ces images gravées, pour revenir à notre sujet sur l'art,
oui.
Il y a des représentations donc des divinités. Comment étaient-elles stylisées ? Symboliquement, est-ce qu'il y a des repères pour l'identifier ? Quels
oui,
sont-ils globalement hein.
Oui, bien sûr. Disons, on peut diviser en deux. Les images orthodoxes et les images hétérodoxes. Là, je plaisante presque parce qu'il n'y a pas vraiment d'hétérodoxie dans ce domaine-là, dans le bouddhisme en tout cas. Mais vous avez les images orthodoxes qui sont vraiment des marquages. Vous aviez des sommes d'iconographie bouddhique que les artisans, alors fallait-il dire artistes sacrés ou artisans sacrés, avaient comme modèle, n'est-ce pas ? Et là, vous avez des images images tout à fait conformes des grandes divinités bouddhiques, que ce soit Amida, que ce soit Kannon, n'est-ce pas, Avalokiteshvara, Mahavairochana, etc. Et puis, à partir de ce prototype, vous aviez des adaptations de la divinité à des points de vue locaux. Par exemple, il y a une image très célèbre d'un monastère de Kyoto, où vous avez un Amida, n'est-ce pas, le Bouddha Amida, qui est en général présenté de face. Là, vous avez un Amida qui tourne légèrement la tête à gauche. Alors, vous direz, c'est pas grand-chose, mais ce mouvement vers la gauche se réfère à une légende locale de ce monastère, où l'un des moines, lors d'une pratique, était un peu endormi, disons, n'avait pas le zèle qu'il fallait, et le Bouddha Amida,
la statue,
a tourné la tête vers lui en disant, pousse-toi un peu pour cette pratique, n'est-ce pas? Et voilà, donc, et c'est resté dans la représentation des Ofuda. Vous avez donc ce double mouvement qui fait tout l'intérêt de ce domaine.
De cette collection et de ces œuvres. Alors, c'était des images gravées. On va passer à un autre type d'image au Japon qui a eu beaucoup d'importance et qui fait aussi la réputation des arts du Japon. Je voulais parler de l'estampe.
Oui.
Si on peut en dire quand même quelques mots. Jean-Noël Robert, comment se traduit l'influence bouddhique justement dans l'art de l'estampe? Alors je pense, mais peut-être je me trompe, par exemple, au genre du paysage. Est-ce qu'il y a une façon de discerner?
Oui, vous avez bien sûr le genre du paysage, par exemple. Mais si vous permettez, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les personnages... Je parlais tout à l'heure de l'encodage de l'art japonais. Et cette estampe qui est avant tout, alors qui est destinée... Là aussi, vous avez les estampes raffinées, vous avez les estampes populaires. Et disons que, grosso modo, les estampes étaient d'un art largement populaire. Même populaire, voire égrillard, n'est-ce pas? Vous avez, par exemple, beaucoup de... Je parlais de l'art du portrait. L'art du portrait qui s'est développé au début avec l'art des poètes, les moines, etc. L'un des grands genres du portrait de l'époque d'Edo, de la grande époque de l'estampe, c'est le portrait des courtisanes, n'est-ce pas? C'est les courtisanes qui étaient le plus à la mode, le plus demandé, etc. Or, très souvent, vous avez ces courtisanes qui sont représentées sous les traits d'un bodhisattva, d'un personnage bouddhique.
Donc, il y a aussi de l'influence bouddhique, pas seulement dans les paysages.
Les paysages, bien sûr. Disons que le paysage, à l'origine, n'est pas spécifiquement bouddhique. Vous avez, en effet, la peinture zen qui aime bien les paysages. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est dans la peinture de portrait, vous avez vraiment un décalage. On reprend quelques thèmes de l'art bouddhique et puis on les adapte à cette
représentation féminine.
On ne peut plus mondaine, n'est-ce pas? D'accord. Et ce qui est très intéressant, ce n'est pas de la caricature. On pourrait penser que c'est satirique. Les Japonais aiment bien plaisanter. Il y a parfois un côté un peu caricatural qui se trouve partout au Japon. Mais ça veut dire aussi autre chose. C'est vraiment cette idée bouddhique qui, pour moi, est l'une des clés de la pensée japonaise et de la sensibilité japonaise, cette idée bouddhique de la division des deux vérités, n'est-ce pas ce qu'on appelle? Vous avez les deux représentations de la réalité. Vous avez la réalité suprême, la réalité véritable et la réalité phénoménale. Et les deux ne sont pas séparés. Les deux sont en réalité superposés l'un à l'autre. C'est même la même dimension. Et il n'y a que le point de vue de celui qui regarde qui permet de, selon votre disposition, vous verrez la réalité sous sa vraie dimension ou sa dimension phénoménale. En regardant une courtisane, vous pouvez voir le Bouddha qui est derrière, en quelque sorte. C'est ce que ça veut dire, et c'est parfois explicite, n'est-ce pas? Donc vous avez cette double vision du monde, japonais et bouddhique à la fois, qui donne, à mon sens, l'une des clés de la représentation à la fois artistique et intellectuelle, poétique, du monde japonais.
Est-ce qu'on peut appliquer ça aux armures samouraïs?
Vous savez que samouraï est un mot un peu vulgaire. On disait bushi, busha, muja, etc. Samouraï, ça veut presque dire le serviteur, celui qui est attendant en sens anglais, c'est pas celui qui est à côté de vous pour vous porter l'épée. À l'origine, ce serait pas le samouraï lui-même. Mais vous avez l'une des expressions poétiques du samouraï, c'est justement l'ashura. C'est-à-dire, dans les voies bouddhiques, vous avez 6 voies du bouddhisme. Et l'une de ces voies, c'est la voie des titans, ceux qui se sont opposés aux dieux. Et ces titans, normalement, on dit il y a 3 bonnes voies, 3 mauvaises voies. Et on met les titans dans les bonnes voies, mais on n'est pas sûr. C'est parfois mis dans les mauvaises voies. Et voilà, les samouraïs, on a toujours été un peu ambigu sur leur statut exact. Mais il est vrai que ces splendides armures de samouraïs que nous avons sont quand même de la période, disons, la plus pacifique du Japon. Et c'est un côté presque d'ornement. C'est un samouraï sublimé, en quelque sorte. Et de ce point de vue, on pourrait... Alors là, c'est moi qui m'avance un peu. Mais c'est vrai que vous avez des motifs, bien sûr, bouddhiques dans les armures samouraï. Vous avez souvent...
Oui, avec ces divinités-là, c'est tellement frappant dans la collection.
Et il faut savoir que dans les... Les vrais samouraïs, en quelque sorte, ceux du XVIe siècle qui ont vraiment combattu, qui ont, à leur détriment, puisqu'ils ont, de certains côtés, ils ont perdu. Mais la plupart de ces samouraïs recevaient les ordres bouddhiques, soit devenaient moines. Par exemple, l'un des plus célèbres qui a fini malheureusement, c'est Takeda Shingen. Et il avait un grand ennemi. Tous les deux, Shingen, c'est son nom bouddhique. Il était devenu moine zen Et il a, semble-t-il, lu les écrits zen, qui sont très difficiles, n'est-ce pas? Mais cela ne l'empêchait pas de combattre comme un titan. Mais en même temps, ça donnait... Alors, dans quelle mesure? Souvent, ce sont des légendes, n'est-ce pas? Mais on a des choses qui laissent penser que son activité de guerrier n'était qu'une partie et qu'il y avait aussi chez lui une sensibilité tout à fait religieuse. Et contrairement à ce qui figure dans un magazine récent en France à propos de cette exposition, les samouraïs n'étaient pas que des machines à tuer, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des GIs américains.
Certains casques des armures de samouraïs sont effectivement ornés, Jean-Noël Robert, de divinités protectrices très impressionnantes. Venez nous parler un peu de ce rapport des samouraïs à la fois à la guerre et à la religion. Merci surtout de nous avoir parlé des arts du Japon, d'être venu nous en parler au micro de Canal Académie. Vous n'êtes pas historien d'art et c'était justement ce regard qui était intéressant, celui du philologue, celui du grand spécialiste du bouddhisme. Vous enseignez, je le rappelle, au Collège de France et vous nous avez offert là un regard très original sur l'art d'une civilisation que vous connaissez très bien. Merci.
Merci beaucoup.